faut arrêter la machine. Il faut arrêter la machine, sinon... Il faut parler quand
tu l'enregistres. Chut, allez, vous allez l'entendre démarrer.
Dernière étape, cinquième et dernière étape de ce cycle d'émissions spéciales consacrées au service public dans la quotidienne maintenant. Aujourd'hui, il y sera question de la dynamique culturelle dans le champ social. Comment s'imbriquent et s'organisent les rapports entre les artistes et la société dans laquelle ils vivent? Quelle différence entre le contexte social et politique que nous connaissons ici et celui que l'on peut trouver sur d'autres continents? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder au cours de cette heure d'émission. Pour y répondre, pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Breton, conservateur du patrimoine, auteur et chercheuse. Bonjour Christine.
Bonjour.
Bruno Martinelli est aussi des nôtres. Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS et plus précisément, je crois, au Centre d'études des mondes africains. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, celui avec qui toute cette histoire autour du service public a commencé pour nous, au travers de sa résidence à Grenouille, pour laquelle il a choisi de nous interpeller sur les correspondances et ceux qui les acheminent, la poste et les postiers. J'ai nommé Nicolas Frise, compositeur. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
On va, si vous le voulez bien, commencer par les aspects patrimoniaux de cette question sur la place de la culture dans le contexte politique et social. Christine Breton, je le disais à l'instant, vous êtes conservateur, c'est-à-dire en charge de la gestion et du développement d'un bien commun culturel. Quels sont les critères qui permettent à une chose, à une œuvre, d'intégrer le patrimoine de la collectivité qui est... Comment décide-t-on d'extraire cette chose, cette œuvre du marché et de la livrer ainsi, de la rendre accessible au public?
Eh bien, écoutez, on en a pour une heure de discussion là, mais on va essayer de faire simple et surtout pour vos auditeurs d'aller un peu à l'essentiel. Je voudrais d'abord dire que cette question de patrimoine, c'est fondamentalement une question de pensée, fondamentalement. Et ça n'est pas une question de gestion de pots de confiture dans des placards. Donc je vais vous faire grâce de toutes les questions techniques liées à ça pour essayer d'aller dans l'aventure de votre émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire au plus près de l'œuvre de Nicolas Frise. Et j'aimerais bien reprendre une phrase qu'il a dite, qui me paraît que je fais mienne totalement, quand il dit « il n'y a pas de mémoire, il n'y a que des fictions ». Et le patrimoine, c'est ça aussi. Le patrimoine, c'est aussi une fiction. Le patrimoine, c'est une construction. Et c'est un texte que l'on a collectivement construit. Voilà, c'est ce que j'aimerais répondre pour cette première question-là.
Une fiction au sens où c'est quelque chose qui est subjectif. Enfin, je vais peut-être laisser Nicolas nous dire comment est-ce qu'il interprète lui-même cette citation de...
Oh, mais on peut ramener ça même à Lacan qui dit que le souvenir est une fiction. C'est-à-dire que ce dont on se souvient, c'est une chose qu'on construit, voilà, c'est une construction. D'abord, c'est un choix, donc c'est une sélection dans le temps. Et puis, c'est une réappropriation. En fait, le souvenir, c'est avant tout quelque chose de présent. Donc, c'est qu'est-ce qu'on ponctionne dans le passé dont on a besoin dans le présent, c'est-à-dire dont on a besoin dans le futur. C'est ça que veut dire la fiction. Et en ça, la façon de gérer le patrimoine, à mon avis, enfin, ce qui est intéressant, c'est quand, effectivement, on se dit qu'est-ce que nous allons faire plus tard de cette mémoire. C'est donc une gestion présente et future de la mémoire, et non pas une gestion, comment dire, effectivement, conservatrice, quoi.
À propos de cette gestion et à propos de la manière dont on la conduit, dont on l'invente, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on a à propos du patrimoine culturel en général, peut-être du patrimoine musical en particulier, une véritable politique culturelle, avec des options, avec des choix, et des choix qui impliquent les artistes eux-mêmes dans ces décisions et dans ces formes imaginées.
Alors là, c'est important. Il faut absolument revenir à la forme première du patrimoine. À partir du moment où on dit qu'il s'agit d'une fiction, il s'agit d'une fiction, maintenant qu'il faut qualifier, une fiction fondatrice. C'est cette fiction qui fonde aussi le corps social. À partir du moment où c'est un texte collectif, c'est lui qui dit le corps social. Donc vous imaginez bien que si l'on reste dans un seul usage du temps, passéiste, on va être complètement dans une pratique temporelle qui va faire fi de la création contemporaine. Alors, moi, j'aimerais bien, toujours pareil, revenir à ce petit moment que nous partageons ici. Hein. Nicolas Frise travaille sur La Poste, il travaille avec des postiers, des postières, et il utilise aussi ce patrimoine, ce savoir-faire, et il en fait œuvre. Et c'est ça, la dimension temporelle, à mon avis, qu'il faudrait retenir. C'est-à-dire une dimension qui tient compte du passé, du présent et du futur en même temps. Nicolas Frise parle de La Poste, ou quand il travaille avec des postiers, on est dans un savoir-faire qui est le savoir-faire de la transmission. Là, c'est la transmission de données. C'est des données qui sont des lettres d'amour ou qui sont des données numériques, des téléphones portables. Mais on est toujours dans la transmission de données. Et c'est très facile à comprendre. Lorsqu'on est sur des questions de patrimoine, on est aussi sur des questions de transmission. Des questions de transmission nettement plus sophistiquées, au sens qu'il s'agit du symbolique. Il s'agit de matières symboliques qui sont transmises. Eh bien, c'est une transmission comme La Poste. Une petite anecdote, c'est un petit cadeau pour Nicolas Frise. Je voudrais ramener vos auditeurs à la date de 355. Après Jésus-Christ, hein, pas avant Jésus-Christ. 355, c'est la fête de la dédicace par l'empereur Constantin, premier empereur chrétien, dédicace d'un bâtiment qui est le Golgotha, le site du Golgotha. Qu'est-ce que fait Constantin ? Il invite tous les évêques de l'Empire à venir pour cette fête de la dédicace. Aux chances, hein, il y avait un concile à Tyr, mais il invite tous les évêques de Tyr à venir sur Jérusalem. Eh bien, qu'est-ce qu'il utilise ? Il utilise La Poste. Donc, vous imaginez, cette histoire est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a fondé le haut lieu de la centrale, le nombril du monde en plus, ça s'appelle comme ça, en utilisant un outil qui s'appelle La Poste, qui était un reste de la poste romaine et qui est la poste de l'Empire. Ça, c'est une histoire qui me semble bien résumer et répondre à la question que vous avez posée.
À propos d'histoire, à propos de transmission, et en rebond justement sur cette question, on associe généralement la présentation publique du patrimoine culturel au musée. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives que cette conception muséale du patrimoine ? On évoquait à l'instant ce que Nicolas Frise effectivement a essayé de faire avec les postiers, constituer un patrimoine sonore, une mémoire sonore des lieux de travail. C'est une démarche d'artiste. Est-ce qu'il y en a d'autres éventuellement qui sont dans ce registre ?
Peut-être Nicolas, vous voulez dire quelque chose ?
Moi, je voulais juste redire un petit chose par rapport à ce qu'il y a une politique par rapport au patrimoine. En fait, moi, je ne préconise pas qu'il y ait... Enfin, je serais heureux qu'il n'y ait pas une politique, mais qu'il y ait des politiques, parce que ce serait terrible, et on a vu ça d'ailleurs dans le passé, de voir tout d'un coup un gouvernement décréter comment est-ce qu'il faut se comporter par rapport au patrimoine. Il y a assez d'initiatives et assez de façons d'aborder le patrimoine de façon très transversale et interdisciplinaire pour ne pas se retrouver dans des politiques très, très... sélective, enfin, et très avec des alors bien sûr il faut des décisions et il faut du courage et il faut des moyens et il faut surtout des idées, mais tous ces mots que je viens de dire sont au pluriel, je trouverais terrible qu'il y ait une politique culturelle par rapport au patrimoine. Je pense qu'une politique, ce serait plusieurs politiques, c'est-à-dire ce serait plusieurs angles, ce serait une écoute des chercheurs, parce qu'en fait ils sont pas tous d'accord et c'est assez important.
Sur cette question, Bruno Martinelli, peut-être une réaction?
Bon, le patrimoine a toute une histoire, hein, en France, en Europe, ailleurs dans le monde. Et effectivement, longtemps, la question a été traitée en termes de politique culturelle. L'histoire de l'institution patrimoniale en France, elle est liée au ministère Malraux au départ, la mise en place de la mission du patrimoine au ministère de la Culture. Et effectivement, ce que l'on constate au cours de ces dernières années, c'est une multiplication des initiatives locales, des initiatives même de groupes au sein d'entreprises, au sein de dans le cadre de réseaux divers, d'associations bien entendu. Et évidemment, bon, on va y revenir tout à l'heure dans un tout autre contexte, évidemment. Mais cette mise en question de la notion de politique de patrimoine me paraît fondamentale. Tout à fait.
En fait, vous parlez des musées, mais c'est vrai que façon, depuis quand même pas mal d'années, grâce à l'anthropologie entre autres, ou à l'ethnologie, ou à la musicologie, il y a du patrimoine immatériel qui vient se glisser dans le patrimoine matériel.
C'est très important.
Et en fait, en plus de ça, les deux sont absolument toujours liés. Parce que quand on a un patrimoine matériel, ce n'est que pour parler du patrimoine immatériel. C'est-à-dire qu'on n'amène pas un objet pour l'objet, on amène un objet pour ce qui sous-entend comme esthétique, comme usage, comme rapport à l'espace, comme rapport aux gens, etc. Et inversement, tout le patrimoine immatériel qu'on est en train de créer tous les uns les autres, à travers la mémoire sonore, par exemple, parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je me bats aujourd'hui pour que on ne se cantonne pas dans la mémoire orale, c'est-à-dire dans les paroles des gens, mais aussi dans les contextes sonores dans lesquels les gens disent ces choses et qui sont très importants. Donc, c'est ce patrimoine immatériel, il renvoie beaucoup au patrimoine matériel, et les musées sont intimement reliés, en tout cas intellectuellement, au patrimoine immatériel.
Alors, sur cette question-là des musées, si je puis me permettre. Hein. C'est très très intéressant d'essayer de remonter l'apparition du musée, de démonter l'apparition du musée. En fait, c'est qu'on a fait lieu du temps. Et du coup, on a créé un utopos, un lieu, une utopie, un lieu hors du temps ou privatif de topos, le lieu qui est lui-même un hors lieu. Et c'est très très intéressant ces paradoxes, parce que c'est aussi ça qui fonde notre société, notre corps social, notre être ensemble. Alors, laissons un tout petit peu le musée, parce qu'il suit sa vie, c'est notre héritage. Donc lui, il va suivre sa vie. Moi, je crois qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à souligner. Tant qu'on est à l'antenne, il faut qu'on arrive à essayer d'aller dans ces choses-là. Qui sont les problèmes actuels? Qui sont en particulier les guerres terribles qui se livrent actuellement sur les systèmes de représentation et les systèmes de référence? C'est ça, le patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas quelque chose de rigolo, de nostalgique, de sympathique. C'est d'abord un système de référence. Et c'est sur ces systèmes de référence-là que nous partageons la planète. Nous partageons la planète.
Autre alternative au musée, on voit aujourd'hui se multiplier des fondations privées, peut-être à l'image du modèle américain ou anglo-saxon qui devient décidément omniprésent. Est-ce que c'est le signe d'une faiblesse, d'une limite de l'action de l'État et des collectivités, Christine Breton? Est-ce qu'ils interviennent en palliatif de quelque chose qui devrait être beaucoup plus développé et qui est l'action normalement de la collectivité, de l'État?
Si vous voulez bien, je laisserai peut-être Nicolas rebondir sur cette question-là, parce que je voudrais arriver à...
Nicolas, est-ce que les fondations privées, on en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, évidemment, à propos de M. Pinault, est-ce que les fondations privées sont en quelque sorte une alternative à une démission du rôle de l'État et des collectivités dans la gestion du patrimoine culturel?
Je ne pense pas qu'on puisse parler des fondations privées ou des collections privées ou dans cette discussion-là précisément, parce que ces gens ne sont pas préoccupés de patrimoine, ils ne sont pas préoccupés de représentation, et les questions qui viennent, enfin les choses qui viennent d'être soulevées sont à mon avis déterminantes. Ils sont préoccupés d'affectation économique, financière. C'est des gens qui ont de l'argent et qui ont envie de l'utiliser pour eux-mêmes, et qui, parce que ils en ont assez et suffisamment et beaucoup trop, ils en font profiter les autres. Mais je suis pas sûr que ça rentre dans une politique de patrimoine. Tout ça est de la muse-gueule privée, quoi. Enfin, c'est-à-dire que on en profite, tant mieux. Et tant mieux que ces gens. Sauf que ces gens n'ont pas, précisément pour le coup, eux, enfin, pas de politique. Ils ont une direction personnelle, à la fois intéressée, à la fois gratuite. Mais je pense pas que ça puisse rentrer dans un débat sur la politique culturelle.
Oui, ils n'ont pas de mission de service public. Non, ils ne servent pas l'intérêt général.
Disons que j'avais un petit peu de mal à élaborer l'intuition qui m'est venue pendant que vous posiez la question. Cette intuition est la suivante. Je pense qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos public et privé. Parce que ce serait là définir le public par rapport au privé. Vous voyez? Et dans votre question, il y a quelque chose qui est fondamental à savoir pour les auditeurs. C'est la transformation dans les questions patrimoniales du tout service public. C'est-à-dire qu'on est en France, attention, on est en France. On est en train de fabriquer l'Europe. Donc on est partenaire de construction de l'Europe et nous avons notre propre héritage. Notre propre héritage par rapport à cette notion de patrimoine. Nous avons été les fondateurs du musée, du patrimoine, de cette notion, qu'il faudrait peut-être un jour mettre au féminin. On pourrait peut-être inventer le mot de matrimoine, je ne sais pas moi, par exemple. Tiens, ce serait plutôt joli. Mais je ferme la parenthèse, simplement pour vous dire qu'en France, quand vous allez poser cette question-là, forcément, on va nous renvoyer dans ce dos à dos. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les questions posées dans les négociations de la GCS, c'est-à-dire une mise en circuit économique des services qui, jusqu'à présent, en France, ont été l'apanage du service public. C'est uniquement le service public qui a été responsable de ces choses-là. À partir du moment où on va les mettre sur une table de négociation européenne et mondiale, on va se poser des questions économiques autrement. Alors, n'ayons pas peur. Hein, n'ayons pas peur dans le sens où si on fait un renvoi dos à dos, on va jouer la ligne Maginot. On a été très très doués dans les années 40 avec la ligne Maginot. Hein. Donc il ne faut pas faire la ligne Maginot du patrimoine ou du service public patrimonial. Reposons-nous ces questions de l'économique et donc de la sphère privée dans le grand contexte d'aujourd'hui de cette table de négociation à GCS. Ça oui. Vous voyez ? Et à ce moment-là, la question sur les fondations privées, je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faut qu'on arrive à la regarder. Alors, je n'ai pas de solution, bien évidemment. Hein. Je ne suis pas Madame Soleil non plus. Mais je crois qu'on a des choses très, très intéressantes à inventer, étant donné que, parallèlement, les notions économiques de commerce équitable, par exemple, ou de développement durable, nous obligent à poser la question du temps, la temporalité autrement. Donc c'est l'économie elle-même qui va nous obliger à revenir sur les questions de temporalité. Et là, on va pouvoir reposer la question de patrimoine dans la sphère publique et la sphère privée d'une manière complètement constructive. Vous voyez, parce que la notion de temporalité, elle aura changé.
Christine Breton, nous étions rencontrés il y a peu de temps à propos d'une précédente émission intitulée « Souvenirs des colonies ». On y avait notamment évoqué l'inanité de vouloir donner une écriture univoque de l'histoire et le souhait au contraire que cette écriture soit plurielle, qu'elle soit commune, qu'elle traverse les mers et les continents. Peut-être à vous deux, Christine Breton et M. Martinelli, l'art, l'histoire de l'art, elle est écrite par l'Occident. Il faut bien le constater. Est-ce qu'on irait maintenant vers une plus grande ouverture, vers une histoire de l'art écrite en commun avec d'autres continents, vers une histoire tout court écrite en commun ? Bruno Martinelli.
Je crois qu'on en est très très loin, malheureusement. Très très loin, qu'il faudra encore que, bon, en particulier les continents qui ont apporté le plus à l'art moderne, par exemple, au cours du XXe siècle, et je pense tout particulièrement à l'Afrique, dont il a été fait beaucoup d'emprunts, qui a reçu une place aux côtés de l'art moderne, évolue économiquement, politiquement et évidemment culturellement pour prendre véritablement sa place. Actuellement, il y a un monopole complet, il faut bien le reconnaître, de la définition de l'art qui ne prend pas en compte les critères venant en particulier des pays qui sont très sous-développés sur le plan économique et politique.
Dans quelques instants, on se retrouve pour évoquer la place de l'artiste dans la cité, mais tout de suite, on part pour une petite balade sonore.
Moi, à 4h30, je prenais le bus. Alors, il y avait les femmes qui partaient, qui faisaient les mêmes quarts que nous. Donc, il y avait des bonhommes qui travaillaient aux abattoirs. Et ils allaient aux raffineries aussi. Raffinerie, abattoir, roquin et puis Salador. Voilà.
Ben, nous, c'est-à-dire, on faisait les quarts. Quand on était à Salador, on commençait à 5 heures. Il fallait à moins 5 être sur les machines et mettre en route. Hein. Et il n'y avait personne hein, dans les rues. Il n'y avait que nous, les femmes.
Ça arrivait par bateau. Parce qu'au départ, c'était comme ça. On allait chercher la graine, l'extraction, on le raffinait sur place. Puis après, il y a eu une transformation. L'huile était traitée sur place, à Madagascar, tout ça, c'était traité sur place. Et l'arrivée des bateaux, c'était avec citernes, avec l'huile qu'on raffinait, qu'on mettait en bouteille.
Il
n'y
a plus rien de, comme avant, là.
Là, je ne reconnais plus rien.
Quand on chantait tout ensemble, qu'il y avait les fenêtres ouvertes, tous les gens qui passaient, ils riaient parce que quand ça nous prenait, après on nous a interdit. Et Gracia, tu te rappelles quand on chantait tout ensemble ?
Christine Breton, vous voulez bien désannoncer ce que nous venons d'entendre ?
Oui, c'était un petit clin d'œil que Emmanuel Thorin et moi-même, nous faisions à Nicolas Frise sur la place de la musique et dans le monde du travail. Quand ces femmes parlent du chant sur la chaîne d'embouteillage, hein, puisqu'il s'agit d'embouteillage de l'huile dans l'usine Salador, vous avez entendu l'ironie et l'humour qui perce à travers leur dire. Donc ça, c'était pour Nicolas Frise, mais c'était aussi pour revenir sur cette notion de culture et de mondialité et de passage des cultures. Je crois que avec notre port à Marseille et la venue du monde entier des données, qu'elles soient des graines d'arachide ou qu'elles soient des données de la pensée, je crois qu'on a une chance formidable et une place formidable à tenir. Hein. Et je voudrais juste revenir sur la question que vous posiez avant. Pour moi, la question revient à quelque chose de très philosophique. Soit on prend l'individu et on le regarde au niveau de sa vie, auquel cas, eh bien là, on va être dans une notion de disparition. Soit on le place, et ça c'est Nicolas Frise qui le dit, au cœur du monde. Et à partir de là, évidemment, on est dans une conséquence de transmission. C'est-à-dire que placé au cœur du monde, c'est l'être qui va transmettre et qui transmet à l'autre et qui, du coup, peut-être arriver à croiser. Vous voyez qu'on est un peu loin des systèmes de référence construits et que là, on a peut-être la possibilité de tricoter quelque chose, peut-être ce qui est le thème de votre émission, j'imagine.
Une dynamique culturelle. Nicolas, tu as choisi d'associer à ta pratique artistique, en l'occurrence la musique, la composition musicale, une dimension militante. À quel moment et peut-être pour quelle raison, dans quel contexte, est-ce que tu as ainsi décidé de travailler selon un mode très très différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans le domaine où tu interviens, dans le domaine de la musique contemporaine et plus largement dans ce qu'on appelle l'industrie musicale ?
Oui, ça, il faudrait regarder de plus près qu'est-ce que produisent les autres avant de décréter que
tu es original.
Oui, qu'on produit des choses différentes. Mais il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que j'émarge avec des fonds publics, donc avec l'argent des impôts. Donc l'important, c'est de rendre l'argent et de le rendre transformé autant que faire se peut. Donc on pourrait appeler ça militant, mais en fait c'est simplement c'est la base même de toute personne qui travaille avec des fonds publics, c'est de rendre l'argent. Donc c'est pour ça que je fais des concerts gratuits et c'est aussi pour ça que je vais là où je dois être, là où la musique doit se réaliser, se composer et se poser les questions qu'elle doit se poser. La deuxième chose c'est que forcément j'arrive dans une histoire qui a déjà des textes, qui a déjà ses références, etc., et que je ne peux pas échapper à cette histoire. Et d'ailleurs, alors il y a des artistes qui veulent y échapper, hein, qui voudraient être intemporels, qui voudraient être éternels, qui voudraient être au-dessus de, comme dirait l'autre, au-dessus de la lutte des classes, enfin qui voudraient être au-dessus des choses, etc. Et moi, je pense que c'est, je leur laisse cette divagation un peu mystique, quoi. Je pense que c'est important de se dire qu'on est effectivement tout de suite dans l'histoire et qu'il faut du coup gérer cette question parce qu'on peut pas décréter comme ça qu'on est dans l'histoire et que ça c'est une action militante de gérer cette question.
Puisque tu l'abordes, continuant sur cette question des moyens de production, une question centrale en effet, est-ce qu'il y a selon toi une contradiction entre l'autonomie, le désir de liberté de l'artiste, bien légitime, et puis un autre désir bien légitime aussi, c'est celui de reconnaissance, et il s'exprime notamment par le fait d'obtenir justement l'aide publique à la création. Est-ce qu'il y a selon toi contradiction entre les deux ?
Bon, d'abord, il n'y a pas de désir d'autonomie ou de liberté. Hein. Enfin, tourner tous... D'abord, moi, je souhaite être hétéronome et pas autonome. C'est-à-dire, je souhaite dépendre des autres et je souhaite pas ne pas dépendre des autres. Je souhaite pas être un électron libre. Et ensuite, je souhaite être un électron égal, mais pas libre. Je m'intéresse plus à l'égalité que la liberté. D'abord parce que la liberté est une tentation, universelle et systématique et même souvent un peu maladive et qui parfois, et les philosophes en ont bien parlé, fait beaucoup de mal à l'égalité. Donc Je pense qu'on n'a pas besoin d'autonomie, on a besoin précisément, au contraire, de savoir comment est-ce qu'on dépend des autres et comment est-ce qu'on construit, comment on participe à l'histoire. C'est-à-dire, comme participer à l'histoire, c'est utiliser à bon escient les références ou les représentations, et c'est travailler sur ces représentations pour en proposer d'autres. Et on est toujours... On est toujours libre de le faire. Enfin.
Ce que tu veux dire, c'est qu'on a trop souvent traduit liberté par libéral et peut-être pas assez par libertaire.
Là, tu poses des questions énormes. Là. Non, il y a toujours cette idée que nous devrions être indépendants, faire ce qu'on veut, que l'artiste doit absolument pouvoir être protégé de toute influence, de toute. C'est une idée qui est complètement, obsolète, qui ne tient même pas compte de la réalité du travail artistique. Tous les gens qui fabriquent, qui sont même en amateur, qui sont dans des pratiques artistiques, ne sont que dans des pratiques sociales. Il n'y a pas de pratique artistique qui ne soit pas sociale.
Il y a un chemin qui permet le retour de l'imagination à la réalité, et c'est l'art. Nicolas, tu aimes à citer cette phrase qui est de Sigmund Freud. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus ce que tu en interprètes, ce que tu en ressens ?
Voilà, il y a une idée un petit peu qui est légitime, mais qui est une idée raccourcie auquel on pense quand on réfléchit pas assez, c'est de se dire que l'art est un lieu de l'imaginaire, et que c'est un moment pour fuir la vie, pour aller rêver à autre chose, pour sortir justement des représentations un peu fonctionnelles ou rationnelles, et aller dans l'immatériel, dans l'irrationnel, etc. Et en fait, c'est ne pas réfléchir assez que de dire ça, même si c'est normal qu'on le dise. Mais en réfléchissant bien, quand on regarde un tableau de Van Gogh, quand on écoute une chanson française du début du siècle, quand on écoute un groupe de rock, ou quand on écoute, on se rend bien compte que, au contraire, il y a comme une espèce d'organisation de l'imaginaire. Il y a une espèce c'est l'intime qui va vers l'extime, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très intérieur et de très subjectif et de très esthétique qui vient parler du monde, et que l'art ne fait que ça. Il parle du réel, et que ce qui nous intéresse justement, c'est son interpellation du réel, son interpellation des choses très concrètes, très fonctionnelles, des choses, des individus, des espaces, des temporalités. Et que on est là que pour ça. Enfin, moi, ce qui m'intéresse quand j'écris de la musique et j'écris des choses assez abstraites, c'est pour parler du monde. C'est pas pour parler de moi. D'ailleurs, un artiste ne s'exprime pas. Il exprime des choses. Il a des sujets. Il a des propos. Il a un propos. Il est inscrit dans un espace-temps. Il n'est pas là pour parler de sa libido.
Christine Breton, vous avez beaucoup travaillé sur l'école. Est-ce qu'il y a une culture politique ou une culture de la politique ? Et pourquoi est-ce que cette culture politique, culture de la politique, on ne l'enseigne pas précisément à l'école ? Ou plutôt, est-ce qu'il faut attendre d'arriver au stade universitaire, et peut-être parfois aussi dans des instances qui sont réservées à une certaine élite ? Pourquoi est-ce que cette culture politique, selon vous, elle n'est pas abordée à l'école publique, dans le service public de l'école nationale ?
J'aurais tendance à retourner un petit peu le rythme de la question et de dire que parce que l'enfant est dans l'école publique, il est de toute façon en train de devenir politique. Voilà, c'est le contexte de fabrication de l'être, de fabrication du système de référence qui passe par l'école. Vous avez tout à fait raison. Après, savoir si cette fabrication implicite dans l'école, et qui devient explicite lorsque vous parlez, par exemple, de Sciences Po, est plus importante, moins importante, ou dans la continuité de l'explicite à l'implicite, ça, je ne suis pas placée pour en parler. Ce n'est pas véritablement mon métier. Mais je crois beaucoup à cette construction implicite. Et ce que vient de dire Nicolas Frise sur l'œuvre, sur ce que signifie fabriquer une œuvre, moi, j'aurais tendance à dire que c'est... faire objet de pensée. Et l'école fait objet de pensée. À partir de là, je crois qu'il faut aussi peut-être arriver à passer par-dessus cette séparation entre art et école. Et garder à l'implicite son espace.
Bruno Martinelli, sur cette question, pourquoi est-ce que les disciplines que vous abordez, vous êtes chercheur, je le rappelle, à l'École des hautes études en sciences sociales, au CNRS aussi, je crois, pourquoi est-ce que cette question politique, elle est abordée aussi tard dans le cursus d'éducation? Pourquoi est-ce que le service public de l'éducation nationale ne s'en empare pas et semble extrêmement tiède ou alors être dans une espèce de mythe ou de mirage de la politique?
Je ne suis pas persuadé qu'il en soit ainsi. Hein. Je ne suis pas persuadé qu'il n'y ait pas dans l'enseignement de l'histoire, de la philosophie, de l'art, de la musique, etc., qu'il n'y ait pas place pour une réflexion critique qui, forcément, à partir de ce moment-là, peut très très bien prendre en compte des facteurs, des données ou des informations de nature politique. Tout le problème, c'est de savoir ce qu'on entend par politique. Hein. La politique, ce n'est pas nécessairement la mise en avant de pensée politique ou de théorie politique. C'est simplement une réflexion, comme cela a été dit à un instant, sur la réalité sociale d'abord, que l'on questionne. Et donc, je ne suis pas aussi pessimiste que vous sur ce point-là.
Nicolas, pour conclure sur cette question de l'artiste dans la cité, parlons d'éducation populaire, si tu veux bien. Je sais que c'est une question qui t'intéresse. Et est-ce qu'il y a, selon toi, un lien? Bien sûr, il y a un lien nécessaire entre l'art et l'action sociale, mais est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'aujourd'hui, on est tellement plus dans ce registre du socio-culturel, qui était peut-être devenu une tarte à la crème, qui est en tout cas devenu aujourd'hui obsolète, dont on ne veut plus entendre parler? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui quelque chose qui pourrait constituer une alternative à ce lien qui est décidément trop distendu entre le travail de l'artiste et puis le terrain social?
Au départ, l'art est un des maillons de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est pas l'art, hein, c'est beaucoup plus de choses que ça. C'est l'idée qu'on ne peut pas voter, on ne peut pas prendre part à l'action sociale, à l'action politique, à la réflexion, si on n'est pas instruit, si on n'a pas des outils justement de référence, etc. Et donc, on ne peut pas voter en regardant la télévision, ce n'est pas possible, enfin, en étant soumis à la propagande ou à la séduction. On ne peut voter que lorsqu'on a des éléments concrets, lorsqu'on a débattu, lorsqu'on a réfléchi, etc. Et c'est évidemment pas ça, ça ne se fait pas dans les médias, ça se fait dans la vie des gens. Donc l'éducation populaire, c'était une idée qui consistait en fait à faire en sorte que des gens, qu'un processus d'instruction puisse être porté par les gens eux-mêmes et puisse se développer sans cesse de façon à leur donner des outils de participation à la vie collective. Et l'art, évidemment, était un des éléments importants de cette dynamique, mais il n'est pas exclusif. Aujourd'hui, l'éducation populaire n'intéresse évidemment plus personne, encore qu'on est en train de beaucoup de la remettre en chantier, en se disant que l'université ne doit jamais s'arrêter et surtout qu'elle doit être partout. Et qu'elle doit être dans les lieux de travail, qu'elle doit être dans l'espace public, qu'elle doit être dans tous les endroits, et que l'université, c'est une espèce de mot qui veut dire la pensée, quoi. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais s'arrêter de penser ce qui nous entoure. Et que penser, ça ne veut pas dire se prendre la tête, ça veut dire être vivant, ça veut dire être actif, et ça veut dire prendre de la distance, ça veut dire s'emparer des choses, parfois les relâcher, et simplement prendre corps.
Dans quelques secondes, on aborde la troisième partie de cette discussion à propos du champ social en Afrique. Maintenant. En effet, j'ai voulu, dans ce bref panorama des rapports entre l'art et la société, ne pas oublier d'évoquer que notre modèle occidental, blanc bon teint, il n'est pas unique au monde, bien entendu, et j'ai souhaité qu'on fasse part dans cette discussion à l'Afrique. Bruno Martinelli, on a beaucoup glosé sur la place de l'artiste dans les sociétés traditionnelles en Afrique. Aujourd'hui, cette société évolue, l'urbanisation est galopante. Est-ce que cette place de l'artiste, elle a évolué? Est-ce qu'elle a changé?
Bon, il faut tout d'abord rappeler la réalité actuelle de cette Afrique, et tout particulièrement de l'Afrique subsaharienne. C'est une Afrique qui est en crise, hein, qui est très pauvre, qui connaît des conflits dramatiques, surtout au cours de ces 10-15 dernières années. et qui est confronté à des difficultés économiques majeures. Donc avant de parler, enfin, pour pouvoir parler de l'art, il faut le remettre forcément dans ce contexte-là. Hein. Vous avez des pays qui sont confrontés à des difficultés telles que c'est presque, je dirais, scandaleux, je veux dire, de poser la question de la culture. Dans le pays où je travaille actuellement, qui est la République centrafricaine, on a quelques interlocuteurs au niveau de l'université ou du ministère de la Culture, mais il est évident, en sortie de crise, que c'est une question que tout le monde considère comme totalement hors de propos, y compris au niveau de la politique locale, voire même d'ailleurs de la coopération bilatérale au niveau de la France, par exemple, ministère des Affaires étrangères, considérerait ça comme une sorte un peu de luxe de s'intéresser à ces questions. Il y a d'autres pays plus stables, quoique étant en grande difficulté économique, qui ont pu élaborer leur, je dirais, leur politique culturelle sur un plus long terme. Je pense par exemple au Burkina Faso ou au Mali, qui ont été moins directement touchés par des conflits, et où on dispose d'un recul de 20, voire 30 ans, hein, et on peut suivre le parcours des artistes, justement, dans le domaine de la musique, de la danse, des arts graphiques, des arts plastiques. On peut suivre là des démarches, essayer de comprendre les logiques, hein, de ces démarches. Alors le statut de l'artiste, évidemment, aujourd'hui, c'est un raisonnement tautologique que je vais tenir là, mais volontairement. L'artiste n'a été reconnu comme tel que au cours du XXe siècle en Afrique. Il y avait forcément des artistes qui ont créé les masques admirables, les statues admirables qui ont été ramenés en masse dès la fin du XIXe siècle en Europe, par milliers, par centaines de milliers. Ces objets ont été ramenés en France, en Belgique, en Angleterre, dans tous les pays, donc colonisateurs. C'était forcément des artistes qui faisaient ces objets. Hein, la créativité,
des
l'invention
selon
de formes.
Nos conceptions, enfin, selon notre compréhension du mot artiste.
Exactement. Mais on ne peut pas nier cependant, étant donné le degré de créativité, on a constaté, et on peut vérifier facilement, quand on met en série, mettons, des statues d'Ogon, ou bien des statues Yoruba, ou des masques Luba et Kuba de la République démocratique du Congo, etc., qu'il n'y en a jamais deux identiques. C'est un fait, tout à fait vérifiable. Il n'y a jamais deux qui sont identiques. On sent bien qu'ils répondent à des normes communes, à des modèles, mais en même temps, ils sont tous différents. On observe aussi des variantes de réussite, de qualité, d'esthétisation. Hein. Donc on ne peut mettre cela que sur le compte d'une tendance artistique, hein, d'individualisation de l'œuvre par rapport à ce que font les voisins. Donc ça, c'est de l'art. C'est l'expression de l'art qui passe par là.
Est-ce que ça n'est pas justement ce qui nous sépare un peu, enfin ce qui nous distingue, c'est que nous, on a une conception extrêmement individuelle, individualiste du rôle de l'artiste, et ça n'est pas forcément le même dans d'autres champs sociaux, et notamment celui que l'on évoque, celui du continent africain.
Alors là, on parlait donc un peu plutôt du passé. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire cela simplement. La place de l'artiste en tant qu'individu et en tant que créateur n'était pas, on peut dire simplement, enregistrée, n'était pas considérée comme pertinente dans le passé. C'est au cours du XXe siècle que progressivement, cette place va être de plus en plus reconnue et des artistes vont signer leurs œuvres, même s'il s'agit encore d'art traditionnel, on va commencer à connaître les noms des créateurs de ces objets. Alors, le statut de l'artiste contemporain, évidemment, est homologue aujourd'hui à celui de l'artiste occidental. Hein, les musiciens se font connaître, font leur publicité, entretiennent des relations au sein de réseaux et de milieux d'artistes. Donc le problème de l'identité et de la reconnaissance publique de l'artiste, de sa place dans la société, suit un peu les mêmes cheminements qu'ailleurs dans le monde aujourd'hui.
Aujourd'hui, une contrainte sans doute non négligeable pour les artistes africains, la nécessité de plaire au toubab, au blanc-bontin. Est-ce que selon vous, c'est encore aujourd'hui une forme de contrainte très présente que l'artiste doit contourner ou intégrer au risque d'un certain formatage, d'un passéisme? On connaît l'engouement pour les arts premiers. Alors peut-être que cet engouement sert un peu à cacher d'autres créations contemporaines qui n'y feraient pas forcément référence, voire carrément d'une censure. Bruno Martinelli.
Ce sont deux questions différentes que vous posez là. J'acquiesce complètement, à la première question ou la première partie de la question. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit bien constater que les artistes, on va dire modernes, qui font de l'art pour le marché de l'art, qui ne souhaitent que vendre leurs œuvres, quand il s'agit d'art plastique ou d'art graphique,
ou de musique,
bien évidemment, qui souhaitent quand même en vivre, sont tournés vers l'extérieur, vers l'Europe, vers l'Amérique, et que cela conditionne quand même beaucoup leur choix esthétique, leur recherche esthétique. Ça, c'est un fait qui est aisément constatable. On le constate, par exemple, dans le cadre d'expositions. Il suffit d'expositions de sculptures, par exemple. On voit que même s'il y a une recherche sur la réalité africaine, où on essaye de faire passer des affects, des images qui font référence à l'Afrique, les normes plastiques, les normes esthétiques sont celles qui répondent le mieux aux consommateurs d'art européens, et donc évidemment à ceux qui sont susceptibles donc de d'acheter. Ça, c'est la première partie de la question. Je crois que effectivement, n'est pas né encore en Afrique, ne sont pas nés encore en Afrique des styles spécifiquement africains.
Christine
c'est un
Breton,
des plus grands problèmes.
Vous vouliez réagir sur cette première partie de réponse.
Oui, je voulais simplement revenir sur la fameuse formule médiévale qui fonde notre Occident et qui est redonner forme au monde entier. Voilà, c'est une histoire vieille qui est en train d'être racontée là. Ça fait un moment que ça dure. Et ça fait un moment que ça nous formate. Donc, excusez-moi, mais je voulais...
Oui, ça va dans le même sens. La deuxième partie de la question, si vous me permettez, je voudrais apporter une petite précision. Cette notion d'art premier, les artistes modernes africains font peu référence à ce que nous appelons les arts premiers. Ils en ont peut-être peu connaissance même. C'est un fait aussi qu'il faut observer sur le terrain dans chacun de ces pays. On peut se demander pourquoi d'ailleurs, parce que puisqu'on parlait de patrimoine tout à l'heure, ce que nous appelons art premier, c'est-à-dire tous ces objets finalement qui sont valorisés dans le cadre d'expositions, qui sont conservés dans des collections de nos grands musées ethnographiques ou d'art aussi, sont-ils sortis de la mémoire de l'Afrique? Y sont-ils présents encore d'une façon fantomatique? Ça fait partie pourtant du patrimoine de l'Afrique. Pour vous donner un exemple de l'ampleur du phénomène de la sortie de ces objets, et généralement c'était les plus beaux qui partaient, Léopold II, qui était le roi des Belges dans les années 1860-70, qui a été le premier grand colonisateur de l'Afrique moderne, a fait sortir pour le musée actuel, le musée de Tervuren, le musée colonial de Belgique, il a fait sortir 300 à 400 000 objets en l'espace d'une vingtaine d'années, pendant le 19e siècle, avant la conquête coloniale française même. L'ampleur de cette sortie d'objets est considérable. Donc on peut se demander quel type de relation les artistes africains contemporains entretiennent avec ces objets. La notion d'art premier, par contre, qui est employée de plus en plus couramment, un peu à la mode en France, qui est d'ailleurs un terme de traduction de la langue anglaise, pose beaucoup de problèmes. Je fais référence à la discipline pour laquelle je milite, qui est l'anthropologie. Je ne crois qu'il n'y a plus un seul anthropologue aujourd'hui, en tout cas francophone, qui utiliserait la notion de société primitive, par exemple. On n'oserait même pas l'écrire, je ne dirais pas la dire, mais même pas l'écrire. Ce sont des notions complètement dépassées. Notions de société première qui relèvent un peu du même champ sémantique sont des notions évidemment profondément contestables. Par contre, dans le milieu de l'art, vous avez encore des revues qui s'appellent Primitive Art. Donc on emploie le terme d'art primitif ou d'art premier, qui est au fond une variante commode. Ce sont des notions assez contestables. Et cela mériterait, on en a beaucoup parlé, on en a parlé au moment du transfert des objets du musée de l'homme vers le musée du Quai Branly qui va bientôt être inauguré. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale, dans des colloques, etc. autour de cela. Finalement, cette notion d'art premier s'est quand même imposée et elle fait problème, quoi. Elle n'est pas reçue scientifiquement en tant que telle.
Quittons quelques instants, mais quelques instants seulement, le continent africain. Nicolas Frise, tu as eu à plusieurs reprises, je crois, l'occasion de te rendre à Cuba, d'y travailler même sur des projets. C'est un autre champ social et politique que celui du continent africain. C'est un autre champ social et politique que le nôtre. Quelles traces, quels souvenirs en gardes-tu ?
Ben justement, c'est très intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que donc on est dans un pays qu'on peut considérer globalement comme assez pauvre, et qui subit donc un blocus, etc. Enfin, donc il y a des réelles difficultés économiques profondes. Et là-bas, paradoxalement, on dit c'est pas parce que quelqu'un n'a pas beaucoup de choses à manger qu'il ne doit pas avoir un livre. Et effectivement, il y a une préoccupation de faire travailler ce paradoxe qui est que la culture doit être extrêmement, extrêmement, extrêmement présente, coûte que coûte, et que partout où il y a des difficultés économiques, la culture doit être présente. Pas pour y répondre, mais parce qu'elle ne doit pas s'en absenter. En revanche, ça revient au début de l'émission, sur la question du patrimoine. Moi, j'ai donc visité plusieurs centres où il y a par exemple la photothèque de La Havane ou d'autres endroits où je vois des choses qui sont en train de partir, de s'effondrer. Enfin, il y a toute une mémoire de ce pays qui n'est pas faite. Et là, pour le coup, ils répondent très clairement que le combat qu'ils laissent tomber, quoi. Enfin, qu'ils n'auront pas l'argent pour s'en occuper, que tout le patrimoine de ce pays et de ce qu'il a vécu même avant la révolution cubaine, castriste, sera probablement. Enfin, ils feront ce qu'ils pourront, parce que autant la culture doit être présente tout de suite aujourd'hui, autant cette notion, le coût que représenterait la préservation et la mise en chantier de ce patrimoine dans l'avenir pour eux n'est pas possible, quoi. Donc aujourd'hui, le combat pour manger n'arrive pas jusqu'au patrimoine, n'arrive pas jusqu'au passé. Il arrive dans une espèce de culture du présent et de culture artistique et vivante, mais il n'arrive pas jusqu'à la gestion du patrimoine, ce qui est très dommage.
Retournons sur ce continent africain que nous évoquions avec Bruno Martinelli. Et pour conclure sur cette question, est-ce qu'on voit aujourd'hui se développer des réseaux identitaires fondés sur une notion d'ethnicité notamment ? Est-ce que, au contraire, la dynamique culturelle transcende ces clivages ethniques ? Qu'en est-il ?
C'est toujours aujourd'hui une des questions fondamentales du destin de l'Afrique. Mais elle prend de nouvelles formes. Il ne faudrait pas croire, et c'est un peu une idée qu'il faut battre en brèche, que ces questions d'identité ou d'ethnicité nous renvoient nécessairement à de lointains passés. Parfois même, il faut transcender même l'imaginaire des Africains eux-mêmes, parfois, qui font très, très souvent référence à leurs ancêtres, à un passé idéalisé parfois aussi. En fait, ces questions d'identité sont des questions qui se posent dans la période contemporaine. Et là, je rejoins donc ce qui a été dit au début de cette émission à propos de la définition du patrimoine. Parce que le patrimoine et l'identité sont des problèmes étroitement associés, y compris sur le continent africain. Mais il peut y avoir aussi un patrimoine à saisir et à valoriser dans des situations de pauvreté, voire même dans des situations de crise. Je prendrai uniquement un exemple. Dans le pays où je travaille donc actuellement et où je viens de rendre pour lequel je viens de faire un gros travail justement sur le patrimoine, qui est la République centrafricaine, il y a 3 ans, on se battait jusque dans la capitale. Hein. Il y avait des mercenaires de différents camps, il y avait des combats dans tout le pays, y compris dans la capitale. En contexte de sortie de crise, la question du patrimoine a pris un autre sens. Elle a émergé d'abord. Elle a émergé d'un seul coup, alors qu'elle ne préoccupait personne avant. Et elle a pris un sens justement par rapport aux questions d'ethnicité. On s'était servi de l'ethnicité pour essayer de dresser les hommes les uns contre les autres, les régions, les ethnies les unes contre les autres. Et le patrimoine apparaît comme un élément de réflexion, hein, bien entendu, hein, polémique aussi, avec le risque de la politisation. Mais cependant, un élément de transcendance par rapport à tous ces clivages.
Nous sommes hélas obligés de rendre l'antenne. Merci à tous les participants de cette émission, Nicolas Frise, Christine Breton, Bruno Martinelli. Et puisque c'est la dernière du cycle des quotidiennes maintenant, merci à toutes celles et ceux qui, au fil des jours, y ont apporté leur contribution. Rendez-vous toutefois très bientôt pour une centième, et oui, une centième, la der des der, pour rendre compte des échanges et des discussions suscitées par la soirée du 21 avril.
Et moi je dis merci à Radio Grenouille.
Et à Sébastien Gély qui a assuré la technique de cette émission.
Faut arrêter la machine. Faut arrêter la machine. Sinon...
Allez, vous allez l'entendre démarrer.
De la résidence de Nicolas.